C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes en mode Lost and Found pour l'émission EX-097, juste avant le Capitole du Libre. Et nous avons le plaisir de recevoir Rodolphe Village des Cinémas Utopia, dont le multiplex de Bordeaux Rouge se trouve avoir une programmation très intéressante autour de l'informatique durant le mois de novembre. Cela fait des années qu'on se regardait, qu'on se reniflait un peu le popotin, en se disant qu'on ferait bien des séances sur grand écran autour du numérique, aussi pour initier une rencontre avec notre communauté, c'est-à-dire vous, bande d'auditeurs. Enfin, nous le faisions sur un sujet vraiment rare, mais absolument passionnant. Sauf que le premier sujet qu'on en a pris, ben on l'a déjà traité dans CPU, il se trouve. C'est un pur hasard. Nous avons la chance que la spécialiste du sujet, Célia Izoar, désormais journaliste pour Reporter, accepte de venir pour discuter sur le sujet avec vous, le public. Mais avant ça, Utopia s'illumine aussi pour fêter la culture libre sur le Capitole du Libre. Rodolphe Village, bonjour.
Bonjour.
Le week-end dernier, avant la diffusion de cette émission, le dimanche 6 novembre à Utopia Tournefeuille, vous avez diffusé un programme de courts-métrages pour le jeune public, courts qui ont une particularité à être produits par du logiciel libre comme Krita, Blender, etc.
Surtout Blender d'ailleurs.
Ouais,
c'était le thème principal. C'était autour
donc il n'y a pas que le lapin.
Il n'y a pas que le lapin qu'on avait déjà programmé à Utopia Tournefeuille il y a moultes années. Mmh. Et comme on aime bien ce lapin, on le reprogramme à nouveau sur proposition du Capitole du Libre. On était tellement heureux que le Capitole du Libre reprenne des couleurs après cette sinistre pandémie que voilà, on avait voulu ressortir le lapin de notre vieux chapeau.
Rien que la gueule des enfants de ce lapin pâteau qui dit « C'est pas ma gueule, mon colonel
!» Alors ça, je me rappelais pas. Il faudrait que je le revoie.
Sachant qu'il y a régulièrement à Utopia Tournefeuille des après-midi avec les associations de logiciels libres, comme Tout Libre,
oui,
qu'on salue d'ailleurs, c'est des amis. Est-ce que vous allez aussi en organiser dans votre filiale Intramuros ?
Alors, à Utopia Bordeaux Rouge, on va faire une soirée...
Oui, parce que je rappelle, hein, Bordeaux Rouge, c'est en bout de l'INB, mais ça reste à l'intérieur de la commune Toulouse.
Techniquement, c'est Intramuros, mais voilà. mais on peut l'appeler Utopia Toulouse.
Qui n'existe plus.
Techniquement.
Voilà.
Donc, ce sera le 17 novembre à 20h30 à Utopia Bordeaux Rouge. On va diffuser un film qu'on aurait dû diffuser avant la survenue de cette sinistre pandémie qu'on ne nommera plus et qu'on n'avait pas passé. Donc, du coup, on devait le passer à Tournefeuille, on va le passer à Bordeaux Rouge.
Mmh.
Et donc, il s'agit de LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse.
Oui, rien à voir avec MDR.
Exactement, mais on aurait...
La Ligue.
Ça, c'est peut-être la suite, hein, on pourra demander au réalisateur, mais voilà.
Et du coup, de quoi ? Alors, c'est en présence du réalisateur ?
Non. Non, par contre, il y a un des co-créateurs, alors je ne serais bien en peine de vous dire, mais il y en a un qui a disparu depuis. Donc le film va pas... Il y avait une volonté de le passer dans beaucoup d'endroits au cours du mois de novembre pour commémorer aussi sa disparition.
Et donc hommage, tu veux dire.
En hommage, oui, bien sûr.
Donc commémorer, non,
oui,
c'est l'inverse.
Oui, c'est le choix des mots est pas très heureux, mais donc toujours est-il que voilà, c'était suite à cette demande que bon, on avait envie déjà de le passer. Et puis le Capitole du Libre, on a appris qu'il redémarrait, donc du coup, ben le choix de la date était vite trouvé. Donc on a et c'est après qu'on a décidé aussi de faire une projection de court-métrage à Tournefeuille pour un peu amplifier notre participation à l'événement.
Alors, on va prendre nos auditeurs pour ce qui ne sont pas, c'est-à-dire des cons, c'est-à-dire on va rappeler un petit peu que le logiciel libre, c'est très large, c'est pas qu'une envie militante, c'est pas que des envies de bénévoles, etc. Il y a des entreprises derrière. Donc, en fait, quel est le sujet en fait de ce documentaire ?
De logiciel libre, une affaire sérieuse ?
Ouais.
Je l'ai vu il y a 4 ans.
Ça n'aide pas.
Je sais qu'il s'agit du logiciel libre, qu'il était... Dans mon souvenir, il était très vulgarisateur sur la notion de logiciel libre. Et donc, il rappelait à des personnes qui ne sont pas forcément au courant de quoi il s'agit, de un peu l'historique, la différence entre le logiciel traditionnel et ses vertus, ses défauts, etc. Enfin, mais donc il va pas révolutionner ceux qui sont déjà au courant de la thématique, mais par contre c'est une excellente occasion de faire parler du logiciel libre auprès de gens qui sont pas forcément au courant des implications de ce que des enjeux autour de cette création logicielle. Je crois que c'est à peu près l'intérêt du film, mais je l'ai vu il y a 4 ans, donc voilà, c'est
Résumé
non, non mais ouais, ça me démontre bien qu'on est une émission bénévole et qui traitons super mal notre sujet. Un peu comme justement la première fois qu'on a parlé du sujet du film suivant.
Mais par contre, vous remarquerez sur le site, on a illustré ça avec une photo de Hervé Kampf.
Le fondateur de VLC.
Exactement. Oh,
pardon, c'est pas le fondateur.
Jean-Baptiste Kampf.
Jean-Baptiste Kampf, pardon.
C'est l'actuel.
Mais c'est la même famille que le créateur de Reporter, donc forcément.
C'est l'actuel président de l'association VLC. Mais c'était pas le fondateur, il en avait très bien expliqué justement dans une de nos émissions.
Tout à fait. Et pourquoi? Parce que Hervé Kampf, bon, a une histoire. Jean-Baptiste Kampf, décidément. Ouais. Mais bon, je suis un gros fan de Reporter aussi, donc ça s'explique. Mais de VLC et de Reporter, donc voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Mais bon, il se trouve que Jean-Baptiste Kampf était venu à la présentation, non, à la présentation de la thèse sur le cinéma numérique qu'avait fait Nicolas Bertrand à Utopia Tournefeuille, et il faisait partie du jury de thèse.
Mémoire, c'était une thèse pour essayer de faire de rajouter du logiciel libre dans les projecteurs de cinéma.
Tout à fait,
ouais.
Et qui a fait notamment qui a permis à VLC par la suite de pouvoir lire des copies de cinéma numérique. Donc c'était.
C'est quoi le format de fichier, j'ai oublié.
DCP, Digital Cinema Package. Donc voilà, c'était du coup voilà.
Alors,
un petit clin d'œil.
La troisième projection de novembre sur le sujet donc du logiciel à l'Utopia, du moins sur les Utopias dans la région de Toulouse, est une collaboration qu'on voulait faire depuis un bail. Parce qu'on se connaît, on a aussi bien des gueulantes que des soirées alcoolisées mémorables. Et là, je crois que ce soir, on en tient une bonne. Et il y a irrégulièrement dans le programme d'Utopia des projections et rencontres sur le numérique. Alors franchement, entre nous, si vous vous débrouillez très bien par vous-même, pourquoi accepter une proposition de zozo comme nous, de FMR?
C'est une pure coïncidence et concordance des temps, comme dirait France Culture. Il se trouve que j'avais entendu parler d'un film documentaire qui avait été réalisé par deux cinéastes anglais qui ne sont pas toulousains, mais qui ont parlé d'une histoire typiquement toulousaine que les Toulousains eux-mêmes ne connaissent que très peu. Et donc, c'était une telle stupéfaction de voir que des Anglais s'occupaient de cette histoire-là en particulier, que je vais pas tarder à vous raconter. que du coup, on voulait passer ce film et... vous nous aviez proposé d'initier des séries d'émissions avec le cinéma, justement. Ça tombe au même moment, donc bon, forcément, le lien était immédiat, d'autant plus que vous aviez déjà fait un podcast sur le sujet.
On a déjà fait une émission, parce qu'on est une émission de radio, monsieur, on n'est pas un vulgaire podcast. Une émission en question sur le Clodo, qui était un mouvement terroriste de fin des années 70 jusqu'à 1983, qui s'attaquait à des ordinateurs.
Alors,
et qui avait lieu sur
Toulouse. Alors, je crois que Darmanin a qualifié récemment... comment il les a appelés?
Techno-terroristes?
Non,
écolo-bio-terroristes.
Écolo-bio-terroristes,
mais c'était pas lui. C'était mince. C'était la FNSEA, je crois, qui avait dit ça.
Ouais.
Mais en tout cas...
C'est pour reboucler... c'est une digression très grossière pour parler de l'actualité du sujet du film, en fin de compte, qui est de replacer les modalités de l'action directe par rapport aux problématiques du monde moderne.
C'était un baril idiot pour placer le terme action directe.
Ouais. Parce qu'on à Toulouse, c'est intéressant.
À Toulouse, c'est intéressant. On va expliquer quand même aux auditeurs qui sont pas tout à fait au courant. Action directe était un mouvement terroriste et purement terroriste des années 70 et 80 qui a tué notamment plusieurs personnalités, mais qui s'est surtout fondé sur les bancs de la fac de droit de Toulouse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Et le Clodo, justement, c'est un mouvement purement toulousain, dont d'ailleurs, très bizarrement, la police française a très vite soupçonné que le Clodo était une filiation de Action Directe, alors que très rapidement, selon les fiches de la CIA, très tôt, ils ont dit « ça n'a rien à voir, ils ne sont pas intéressés par le marxisme, ils sont plus purement anarchistes ». Donc c'est quand même très étonnant de voir la CIA extrêmement précis là-dessus, sur cette séparation. Mais la première fois que tu as entendu parler du Clodo, c'était quand?
Alors, justement...
Pour être honnête, avant de faire notre première émission avec Célia Izoard, moi, j'en avais entendu parler avant. Et il y a eu une expo au THSF, voilà. Et j'étais là et j'ai dit, putain, il y en a qui s'en souviennent parce que ça faisait des années que je cherchais des documents
là-dessus. C'est justement grâce au THSF que j'en ai entendu parler. Ensuite, j'avais lu un article dans la revue Z écrit par Célia Izoard, puis écouté donc l'émission que vous aviez faite avec elle sur ce sujet. Et il se trouve, parce que tout se recoupe et tout est lié, sans être sans verser dans le complotisme anarchiste et l'action directe, que là je ces petites annonces comme ça brûlent pour point, mais on est en train de réfléchir à un reboot du THSF qui se passera probablement à Utopia Bordeaux Rouge au printemps prochain. Donc nous sommes là aux prémices.
Je suis dans la mailing list, je suis même pas au courant.
Ah, moi,
tu sais
hein.
Tu sais que tu viens de spoiler même à nos amis des renseignements généreux. Hein.
Oui, je sais.
Mais donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le truc est complètement passé aux oubliettes. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu quand même des dégâts conséquents, mais tout le monde, et même à l'époque, le préfet, il a eu un ton badin, d'ailleurs, quand il en a parlé. Je vous renvoie sur l'émission en question et je vous invite à venir justement à la projection de ce documentaire pour le découvrir. C'est complètement fou.
Mais ce que je trouve fascinant dans le fait que ce soit des chercheurs anglais qui se soient emparés du sujet, c'est que le clodo en lui-même faisait référence à un mouvement anglais qui est celui du ludisme et dont parlait
très
bien
au début du 19e
siècle, dont parlait très bien Célia Izoard, et un mouvement qui avait pour but de s'attaquer aux machines de tissage qui allaient remplacer les humains.
Et comment il est saboté?
Alors, le mode de sabotage, je m'en souviens plus, par contre.
Alors, je viens de donner la réponse. Ah ouais. C'est qu'en fait, ils jetaient des sabots en bois dedans.
Génial.
Voilà. Eh oui. Alors.
Tout ça pour dire que, et c'est là où l'éclairage de Célia Izoard est très intéressant, c'est que elle a apporté par de diverses traductions et articles et réflexions théoriques qu'elle a pu fournir, un renouveau de la théorie critique de la des technologies qui font cruellement défaut actuellement, une théorie critique qui pense la modernité aussi comme une lutte de classe. Et donc, quand on pense à l'intelligence artificielle, à la robotique, à tout ce qui peut permettre aussi d'asseoir une domination d'une classe sur une autre, elle a réintroduit ce vocabulaire-là aussi pour ces technologies, chose qui était complètement tabou jusqu'au début des années 2010 pour penser ces technologies. Donc,
il y a un bouquin qu'on va bientôt parler dans cette émission où cela parle justement des problèmes de classe dans l'usage politique du numérique, qui est faite par une amie d'ailleurs.
Jeanne
Schrady, traduit en français après beaucoup de temps avant, une fois que le bouquin était sorti aux États-Unis. Ça, on en reparlera beaucoup après. On voulait éviter que ça soit en période électorale pour différentes raisons. Comment a été reçu le documentaire Machines in Flames par ceux qui représentent encore le office?
En fait, c'est tout frais. Les premières projections en France ont eu lieu, je crois, au mois de mai dernier.
Il a été présenté en festival, c'est ça?
À Nantes, il me semble. Je suis pas sûr. Je me souviens plus exactement, mais c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Et donc après, je me suis empressé de demander au réalisateur de quoi le visionner. Le film a vraiment une orientation très politique. C'est en quoi il est intéressant. Et puis.
On avait dit sans rire. Non, mais sérieusement, par contre, tu as raison, c'est sur la politique, c'est-à-dire la gestion de la cité et tout ça. On en revient aux cités connectées et tout le reste avec 40 ans d'écart, c'est quand même étonnant.
Le film déborde vraiment sur ses origines historiques. Et il se trouve que cet été à Toulouse, on a eu par exemple un sabotage de terrain de golf. Alors je sais que ça n'a pas forcément de lien, mais pour moi, ça en a un dans le sens où il y a comme un retour au travers des problématiques écologiques, des modalités de l'action directe et des réactions face à une certaine forme de modernité de ses conséquences. Donc il y a je tire des grands traits, mais il me semble que le film arrive à point nommé pour parler aussi de choses qui nous arrivent actuellement.
En tout cas, ensuite, déploiement de la 5G, des mouvements de contestation.
Oui, bien sûr, il y a le Linky, déploiement de la 5G, mais ça, c'était pas cette année. Donc là, je reliais ça à quelque chose qui avait lieu purement cet été, en fin de compte. J'aurais pu parler également du suivi des jets privés d'Elon Musk, par exemple, et d'autres choses.
Mais, durant l'été, durant cet automne, on a eu pas mal d'installations autant physique,
enfin, des fibres, effectivement,
des fibres,
pas pensé à citer ça, oui,
mais également, il y a encore quelques jours avant cet enregistrement, il y a eu une antenne, en Mayenne, qui s'est fait, qui est tombée, qui a été carrément,
un pylône qui a carrément été tombé. Ça voulait dire aussi que des radios associatives étaient dessus. Il n'y avait pas que des réseaux.
Il y avait aussi les radios associatives RTL2 et FUN. Je pense super.
Oui, mais ce que je veux dire, il y avait plusieurs.
Il n'y avait pas que l'émetteur. Et en plus, c'était une antenne zone blanche. C'est-à-dire qu'elle couvrait des secteurs où justement le réseau mobile n'allait pas. Et ça posait aussi des problèmes de risque pour les services d'urgence. Parce que là, tu ne pouvais même pas appeler le 112.
C'est tout le problème de l'action directe.
Voilà.
C'est que ça fait en général pas dans le détail.
Mais ne nous fâchons pas, ce serait bête.
Après, ce genre d'intervention arrive dans des périodes où la démocratie a des problèmes aussi. Sinon, les citoyens ne s'exprimeraient pas de cette manière. Bon, bref, on va pas simplifier, essentialiser les gens trop facilement.
On invitera les auditeurs. Voilà. On les invitera. On souhaiterait qu'on ait des auditeurs dans le public et l'audience justement pour venir en discuter, ce sera intéressant.
Oui.
Parce que lors de cette projection, on a l'une des très rares spécialistes quand même sur ce mouvement, typique celui du clodo.
La seule que je connaisse personnellement.
Le mouvement du clodo, oui. C'est Gaël Zohar qui à l'époque écrivait dans UZ, qui maintenant est journaliste, chez Reporter, qui vient en parler dans notre émission. Il faut dire que la dernière fois qu'on l'a reçu, on avait pas super bien préparé le sujet. Et je tiens vraiment à dire que c'est vraiment de notre faute, on l'a mal préparé, même si elle a eu des réponses super intéressantes. En tout cas, je souhaite
était très intéressant durant cette émission, en tout cas. Mais après,
en tout cas, vraiment, venez le 24 novembre. Je pense que ça vaudra vraiment le coup d'en reparler. J'en profite que je t'ai sous la main, mon cher Rodolphe, pour parler de Vidéo en Poche, un service très original de VOD dont tu as été l'initiateur. Alors, Vidéo en Poche,
Il est juste temps qu'on en parle, justement, vu qu'on va l'arrêter.
Mais justement, parlons-en.
Oui, on parlait de logiciels libres. Alors, la sérendipité, c'est quelque chose inhérent à Internet, donc c'est fascinant à chaque fois qu'on reboucle des informations. Mais on a créé le logiciel Vidéo en Poche et donc le service en 2010. C'était au moment de la création d'Adopi, en fait. On avait présenté ça officiellement aux Rencontres mondiales du logiciel libre en 2010 à Bordeaux. Ce logiciel avait été créé, développé par une société qui s'était créée la même année et qui avait pour but de promouvoir le logiciel libre et de travailler autour des maintenances des systèmes Linux, d'Ubuntu en particulier. Et donc, bon, tout ça était, on était vraiment dans l'écosystème quand on avait créé ça. Il se trouve que la société qui avait créé le logiciel, qui l'avait développé, a fondu les plombs il y a peu de temps. Et a été racheté 3 fois entre temps. Et c'est la 3e fois qui a été fatale au logiciel qui nous préoccupe. Et on a reçu, lors du énième racheteur de la société, la deadline, c'est-à-dire le 30 novembre, de l'arrêt des serveurs qui permettaient la remontée des chiffres de vente auprès des distributeurs. Donc, plutôt que de changer de société de développement, vu le
deadline était un peu limite.
Vu la deadline limite, mais pas seulement, c'est aussi économiquement, c'était pas très intéressant de dépenser énormément d'argent pour quelque chose qui ne serait jamais que résiduel, même si on aurait pu continuer à le faire fonctionner. Ça aurait coûté beaucoup trop cher en matière de développement logiciel par rapport à ce que ça valait le coup, y compris pour les distributeurs.
Je trouve ça quand même absolument génial. C'est tu vas au cinéma, et si le film t'a plu, tu l'emportes en clé USB.
Alors ce qui était marrant, c'est que
c'était ça quand même.
Le pari à l'époque, c'était de convaincre les distributeurs que les DRM n'avaient aucun intérêt commercial. C'était surtout ça en fin de compte. Et de vendre le film pas très cher. Et alors qu'à l'époque, on allait plutôt dans le sens inverse. Donc c'était DRM plus prix à la hauteur des DVD ou des Blu-ray, histoire de pas faire de l'ombre à la vente
du support physique.
Du support physique. Donc nous, on était sur du 5 € unitaire et sans DRM et sur clé USB. Pour les distributeurs, ils comprenaient pas tellement de quoi il s'agissait en fin de compte. Donc du coup, ça a pu passer dans de l'incompréhension. S'ils avaient compris les implications, je suis pas sûr que ça aurait passé aussi bien. Mais bon, pour eux, voilà, on était dans les marchés de niche pour ce qui est des distributeurs qu'on avait réussi à convaincre de l'opération. Donc pour eux, ils étaient pas tellement sur ces problématiques, à vrai dire. Donc
il y avait combien d'œuvres au catalogue?
On est arrivé.
Parce qu'il y a un peu tout, hein. Il y a du jeunesse, il y a du documentaire. Il y a...
On a quoi? Dans les belles heures, on a atteint 300 films au catalogue, à
et
peu près.
Mal.
Ce qui était pas si mal. Et on a vendu plus de 30 000 copies.
Ouais. Mais... Ce qui fait plus que d'abonnés chez Salto.
Voilà. Donc, c'était, ce qui était pas si mal, honnêtement, par rapport au nombre de cinémas du réseau qui animait Vidéo en Poche. Franchement, c'est pas mal du tout.
Ouais. Je veux juste une confirmation.
Oui.
Parce que je veux être absolument sûr avec toi. Mais pour moi, ça me semble essentiel. Est-ce que cela veut dire que Vidéo en Poche, qui a été montée devant le constat du manque d'offres légales au moment de la création de l'Adopi, qui était purement répressive,
oui,
est-ce que ça veut dire que vous avez survécu à Adopi?
C'est ça, j'allais justement le mentionner. C'est pour ça qu'on s'est permis de l'arrêter aussi. C'est
parce Champagne, femme en topless et tout. Allez,
on avait rempli notre contrat initial. Voilà,
fais gaffe, hein, je te rappelle que maintenant, l'Adopi, ils sont avec le CSA, ça s'appelle l'ARCOM maintenant.
Ouais, mais oui, je me demande ce qui reste vraiment
comme une manière de l'enterrer. C'était une manière de l'enterrer. Donc, on peut considérer que l'Adopi est mort.
Sacré funérailles. Revenons sur le Capitole du Libre, qui donc va avoir lieu les 19 et 20 novembre 2022 à l'ENSET. Est-ce que tu y seras?
Ah, en tant qu'auditeur attentif, oui, bien entendu. Après, pas en tant qu'intervenant.
Alors, maintenant qu'on a sous les yeux, justement, le plateau de conférence, un petit peu, il y a vraiment de tout. Il y a même des Parisiens qui viennent nous expliquer pourquoi c'est bien de faire la radio sur le numérique. Ça me fait un petit peu rire. Je déconne à peine. Hein. Oh putain. Qu'est-ce que tu viendrais voir, justement? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Ce serait plutôt les ateliers, plutôt le village associatif, plutôt certains types de conférences?
Plutôt certains types de conférences en général. Enfin, ouais. Quand j'assistais au Capitole du Libre, dans ces grandes heures, c'était plutôt les conférences. Ouais.
Ou rencontrer des gens, peut-être?
Bien entendu, parce que j'en connais quelques-uns.
En tout cas, on vous invite. Ouais. Merci beaucoup, Rodolphe, d'être venu pour cette émission en mode
merci
Lost
à vous,
and Found.
Et j'espère vous voir donc très bientôt.
Donc, pour le jeudi 24 novembre, à Utopia Bordeaux Rouge, en bout de ligne B, en bout de ligne numéro 36, si je me trompe aussi.
19, 36, 40, 42, 73.
Numéro complémentaire.
Ah bah, il n'y en a pas. Enfin, il y a le 117, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il ne fonctionne jamais le soir.
Voilà.